Je voulais simplement dire que j'ai 83 ans. Je suis arrivé à Paris en 51. De ma vie, je suis descendu jusqu'à Rouilly-Hydro, vieille et malade, pour voir cette manif. Et ma petite fille de 10 ans était avec moi. Elle a participé à plusieurs manifs, mais moi, de mémoire, à part le 1er mai 58, bon, j'ai pas vu une manif aussi dense que ça. Et c'était pour moi un plaisir, et j'ai soutenu les jeunes, même n'étant que sur le trottoir, parce que je peux plus avancer jusqu'à Nation. Mais ça m'a fait chaud de voir les gens dehors. Nous, la police, elle va dire que c'est pas pour rien, quoi. Bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, j'étais contente que les gens se soient mobilisés très, très, très fort. Allez, bon courage, à bientôt. Au revoir.
Ben écoute, je viens d'entendre que Borloo disait que son CPE ne concernerait pas beaucoup de personnes. Voilà, qui reconnaît que ça va pas créer, c'est pas ça qui va créer des emplois. Alors c'est une bonne raison pour le mettre à la poubelle, son CPE pourri, là, voilà.
Aujourd'hui c'est la journée de la femme, mais ce n'est pas ma journée. Je suis au chômage, en fait je travaille à temps partiel, j'élève ma fille. J'écoute parfois avec moi votre émission, mais n'entends de questions. Aujourd'hui, je suis encore angoissée en passant à demain. Encore une fois, les acidiques n'ont pas traité mon dossier. Je perçois un complément qui monte mes revenus à 800 euros par mois. Je traite mon dossier au début du mois et je dois attendre toujours le 20 pour percevoir mon dû, ce qui me fait utiliser mon découvert et payer des adios ou des frais de 20 euros pour rejet de prélèvement. Je n'ai pu me joindre à la manif du 7 et j'enrage. À cause de mon boulot, je n'ai pu y aller. J'enrage, mais je ne baisse pas les bras. Et je m'enrichis au jour le jour par toutes les réflexions que vous nous faites parvenir sur les ondes grâce aux répondeurs. Merci, merci encore. Une auditrice fidèle.
Auditeur de là-bas, si j'y suis, ne vous inquiétez pas. Là où il y a de la merde, il y a Daniel Mermet qui se croit crédible quand il fait lire une lettre par une gamine de 15 ans. À cet âge-là, on pense qu'à s'amuser. On pense absolument pas à ce qui va arriver dans quelques années. Je suis bien de l'avis de l'auditeur qui lui a dit que c'était un pauvre mec minable. Et je suis aussi d'accord avec cette personne qui lui a passé un savon il y a 15 jours. Je leur conseille simplement que s'ils sont pas contents, d'écrire à la direction de France Inter afin qu'on ait autre chose que ces conneries à 17 heures. Au revoir. Quant au monde diplomatique, vous direz à vos bonnes femmes là qu'elles feraient mieux d'aller à l'usine que de raconter des conneries au micro.
Oui, c'est JB des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, je voulais dire que j'étais patron restaurateur et que je soutenais le mouvement contre le CPE et que j'irais offrir... dans une fac, à manger pour ces étudiants qui se battent et qui sont absolument pas entendus par un gouvernement complètement sourd et aveugle. Et voilà, et vive les jeunes. À bientôt.
C'est Alain de Tours. Je vous rappelle que ce soir se déroulera le second café repère de la Basse du Sud, donc à Tours, au café Barrio de la Cantaluna, place des Halles, et ce sera à 18h. Donc en espérant retrouver toute la convivialité et la bonne humeur de la première rencontre, c'était vraiment un moment sympa, agréable et plein de partage. Donc voilà, à plus.
Voilà, je téléphone parce que la lutte contre le CPE me rappelle un autre combat des jeunes. De nombreux médias l'ont souligné, en fait, ça rappelle bien le contrat d'insertion professionnelle qui avait été voulu par Balladur en 1994. Alors, il avait été surnommé à l'époque le SMIC jeune, et puis la mobilisation avait alors forcé le gouvernement à abroger les décrets. Alors, je pense que cet exemple doit nous montrer qu'il y a un espoir, que la lutte doit se poursuivre. Et puis, je me disais, en voyant justement des images de 1994 dans une émission d'Arte, que si le JT de 20h pouvait diffuser ces images de l'époque, ce serait sûrement un formidable catalyseur pour les protestations, un encouragement pour nous tous qui voulons garder nos acquis sociaux. Et donc, voilà, j'ai décidé de vous appeler pour que essayer de faire que cet exemple soit diffusé encore plus largement, que tout le monde en prenne conscience et que ça motive les troupes.
Merci à tous pour tous ces messages. Merci au patron restaurateur là qui veut nourrir les étudiants. Il risque d'avoir beaucoup de monde à nourrir, à en croire au moins tous ceux qui laissent des messages sur le répondeur de la basse ici pour faire savoir que leurs facs sont occupés, qu'ils se mobilisent. Notre restaurateur, j'espère qu'il a des moyens. Merci à tous et je suis toujours aussi navré chaque jour. Nous sommes aussi navrés chaque jour avec Christophe Humbert de ne pas pouvoir passer plus de message que ça, mais c'est ainsi. Gabji, inefficacité, bureaucratie, le secteur public, c'est inefficace. EDF, PTT, SNCF, il faut moderniser, il faut libéraliser, il faut ouvrir le privé, c'est performant. La concurrence, c'est bon pour le consommateur, c'est bon pour les prix, c'est bon pour le choix, sans parler de l'opportunité de devenir actionnaire. Voilà les paroles de la chanson qui, depuis des années et des années, accompagne la privatisation du secteur public. L'électricité, la poste, le chemin de fer, la radio publique. Non, pas encore, mais le moment viendra sans aucun doute. Il n'y a pas de raison. C'est vrai, quelle raison y aurait-il à défendre le secteur public? Eh bien, des raisons, en voici quelques-unes, malgré tout, dans trois films documentaires que vous pourrez voir sur la chaîne France 5 les 16 mars, 23 mars et 30 mars prochains. Le premier, le 16 mars, ce sera sur La Poste. La Poste, un drôle de pli. Le 23 mars, ce sera à 15h45. Ah oui, il faut être là. Ah ben oui, il faut être là l'après-midi. Hein. Ce sera sur la SNCF, une erreur d'aiguillage. Et puis, le 30 mars, à 15h45, toujours, ce sera le EDF, les apprentis sorciers. C'est avec l'auteur de ce troisième film, EDF, les apprentis sorciers, qu'on va passer cette heure. C'est Gilles Balbastre qui a réalisé ce film et qui va nous donner peut-être quelques raisons de douter des paroles de la chanson que je viens de citer. On aura aussi Philippe Mulstein, qui travaille à la SNCF et qui est aussi au conseil scientifique d'attaque, qui nous donnera son point de vue du côté à la fois de la SNCF et du secteur public en général. On a reçu pas mal de messages suite à l'émission d'hier avec Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias, qui, je vous le rappelle, prépare pour la semaine du 19 au 26 mars à Paris, les Paris de vivre ensemble, un ensemble de rencontres, de débats, de dialogues, de tables rondes, de concerts, etc., etc., en vue, ben voilà, d'essayer de sortir de l'enfermement communautariste. Et vous avez été nombreux à réagir à l'émission d'hier. On va entendre quelques-uns de vos messages. Et puis alors, en avant-première, vous savez qu'à partir de lundi, on part pour l'Inde et le Bangladesh avec Guy Van Til. La série de reportages s'appelle « Comment meurent les bateaux et qui coud ma chemise ?» Et vous pouvez voir des photos de ce reportage. On a fait avec un ami auditeur un diaporama, que vous pouvez aller voir sur là-bas.org. Là-bas.org. Et vous avez, c'est à peu près au point, vous pouvez y aller tout de suite, faire un petit tour. Et voilà, tout va bien, donc on retrouve Gilles Balbastre et Philippe Mulstein après les messages que voici, que vous avez laissés sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Moi j'appelle à propos de l'émission qui est en train de passer en ce moment, là on est mercredi, et qu'est-ce que ça fait du bien. Je rentrais chez moi ce soir, je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette société où sur dans les radios, sur dans les magazines, chez le médecin, je lis que des choses sur une société qui est en train de se racialiser, qui est en train de devenir complètement repliée sur elle-même, avec un monsieur qui voudrait bien être à la tête et qui est en train d'envenimer tout ce qui est possible d'envenimer, qui est en train de mettre de l'huile sur le feu à tout moment. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une émission où on rappelle que, ouais, on voudrait bien, on veut. Moi, je veux vivre avec les autres. J'en ai marre de ces gens qui essayent de stigmatiser d'un côté les Arabes, de l'autre les musulmans, de l'autre les Noirs, les Antillais, ceci, cela. Ça commence à franchement me casser les pieds. J'ai envie de vivre avec tout le monde et dans ce pays. Et j'ai envie que tout le monde se respecte et que ben, qu'on vive ensemble. Et puis c'est tout, quoi. Et il faut combattre ces gens qui essayent de nous jeter les uns contre les autres, qui écrivent qui font des interviews dans des journaux où ils disent qu'ils nous rappellent que la civilisation a été amenée au sauvage. Là, je pense à un philosophe français qui a encore le droit d'officier sur les ondes de la radio nationale. Et ça, franchement, quand je vois ça, ça me désole.
Je voulais vous remercier pour l'émission sur les communautés parce que franchement, c'est un sujet qui est grave, quoi. Il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé un mail à des amis parce que j'avais été très choquée par le tract qui avait été distribué par le CRIF pendant la manif pour Halimi, où Dieudonné était comparé au tueur. Supposé d'ailleurs, puisque le procès enfin rien n'est fini dans cette histoire. Toujours est-il que j'envoyais ça à des gens que je connais de plus ou moins loin, donc voilà, et qu'une nana me répond qu'elle est juive et que le racisme anti-blanc existe. Une nana que je connaissais, avec qui j'avais discuté, avec qui je croyais partager des choses, quoi. Et j'étais sciée. Enfin, on vit à Paris, enfin, ce qui me concerne, on vit dans des quartiers métissés, et franchement, le racisme anti-blanc, moi, je vois pas. Et c'est un truc dont on entend parler partout maintenant, à la télé. Le racisme anti-blanc, le racisme anti-blanc. Mais attendez, d'où le rapport de force là dans notre pays? Non, mais il faut quand même remettre les pendules à l'heure. À qui sont réservés les emplois les mieux? Qui est-ce qui en chie toute l'année? C'est pas les blancs, merde. Faut quand même arrêter de délirer sur ce truc-là. Enfin, franchement. Et je pense que des émissions comme celle d'aujourd'hui, ben, j'espère que vous en ferez plein, parce que, à mon avis, il y a du boulot. Voilà. Et même parmi les gens de gauche. Malheureusement. Et c'est très inquiétant. Et voilà, parlons-en. Et je dis pas qu'il n'y a pas des difficultés de dialogue, il n'y a pas des difficultés de toutes sortes, mais faut arrêter de se replier sur son identité. Ouais, moi je suis pas juive, je suis pas rien. Je vis à Paris et je crois pas qu'il y ait du racisme anti-blanc. Merci, à bientôt.
Moi qui suis d'origine arabo-maghrébine et fière de l'être, je suis blonde aux yeux bleus et j'ai la peau plus blanche qu'une blanche. Alors, je peux vous assurer que je n'ai jamais rencontré ni de racisme, ni quoi que ce soit sur ma route ou dans mon entreprise ou quoi que ce soit. Donc, j'ai autour de moi de la famille, c'est vrai, qui sont très sémites, hein, parce qu'il faut pas oublier que les Arabes sont des sémites et que quand on parle d'antisémitisme des Arabes envers les Juifs, c'est vraiment la pire chose qu'on puisse dire, c'est-à-dire dire des Arabes qui sont contre eux-mêmes, en fait. Et je pense que les mots sont très importants, qu'il y ait de la judéophobie de la part des Arabes envers les Juifs. Et aussi, il faut le dire, certains Juifs sont islamophobes et certains d'entre eux-mêmes qui se prévalent d'être des philosophes, qui tiennent des propos d'un racisme épouvantable que n'importe qui d'autre tiendrait, serait évincé des médias et même de son métier. Enfin, voilà, c'est ce que je voulais dire, et dire aussi d'arrêter d'exagérer autant les choses entre les communautés. Voilà, après tout, on est en France, chacun doit se battre pour atteindre un niveau qu'il pense mériter. Et je voulais aussi dire d'arrêter d'appeler tous les arabo-maghrébins des musulmans, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas arabes. Donc ça suffit, quoi. Il faut arrêter de cataloguer les gens par leur religion. Ça suffit. Voilà.
Voilà, après le CNE, le CPE, maintenant le CDE, contrat dernier espoir pour les plus de 57 ans, j'imagine. Et que propose cette société? Que propose le gouvernement? Que proposent les employeurs pour les personnes compétentes qui ont de 50 à 56 ans? Rien. Bien sûr, ou alors l'euthanasie ou le suicide collectif. Voilà, Alain, Paris, un adhérent révolté de l'UMP. Bravo la droite.
Salut aux auditeurs de là-bas si j'y suis. Savez-vous que les salariés de Castorama d'Anglet Bayonne sont en grève illimitée depuis une semaine? Figurez-vous que la direction essaye de pourrir le mouvement en repoussant les négociations. Toujours est-il que les salariés de Casto sont solidaires et sont convaincus par le bien fondé de ce mouvement. Cependant, ils demandent aux auditeurs de là-bas si j'y suis leur soutien moral et financier afin que leur lutte pour obtenir de meilleures conditions de travail aboutisse. Tout soutien moral et financier doit être envoyé à l'Union locale CGT, Bourse de Travail, rue Sainte-Ursule, 6400, Bayonne. Je répète, à l'Union locale CGT, Bourse du Travail, rue Sainte-Ursule, 6400, Bayonne. D'avance, merci.
Bonjour, c'est le bateau ivre, Locmoria Plage, l'île de Groix. Le repère, c'est ce soir, jeudi, à 9h. Et on aimerait ce soir parler du sujet du pouvoir. La semaine dernière, c'était la liberté. Le pouvoir et l'abus du pouvoir. Et on peut commencer autour d'une petite phrase de Thomas Jefferson. Aucun honnête homme ne peut éprouver du plaisir à exercer un pouvoir sur ses concitoyens. Merci. À ce soir.
Ouais, Daniel, bah écoute, on vient de nous sortir de nos classes. On est jeudi, et ben écoute, tout le monde est mobilisé contre le CPE, je suis au lycée, je suis en seconde. Et tous les autres lycées sont venus nous chercher, on est tous descendus, on est dans la cour. Voilà, soutenez le CPE. Salut.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Gilles Balbastre et Philippe Mulstein. Là-bas, si j'y suis.
Parce que dès que ces entreprises énergétiques ont mis la main sur le système, elles ont fait pression jusqu'à l'étranglement.
Ces sociétés privées sont des entreprises qui cherchent à maximiser les profits. Elles sont obligées de rechercher le profit le plus élevé possible pour leurs actionnaires. Et c'est ce qu'elles font, et elles le font très bien. Mais s'attendre à ce qu'elle se comporte différemment, c'est comme attendre d'un tigre qu'il devienne végétarien.
L'électricité ne risque-t-elle pas de devenir un produit de luxe ?
Concurrence égale baisse des prix. Pas de chance, c'est l'inverse qui s'est passé.
L'une des choses qui m'intéresse dans notre pays, et peut-être dans d'autres pays aussi, c'est de rétablir l'idée des services publics. C'est quelque chose qui n'allait pas de soi aux États-Unis. Nous l'avons obtenu après des siècles de lutte pour s'assurer le contrôle des chemins de fer, de l'industrie du téléphone, de l'industrie du gaz naturel, de l'électricité, de l'industrie des transports routiers. Et maintenant, nous abandonnons cette vision d'ensemble et ce contrôle, avec, dans de nombreux cas, des résultats épouvantables. Je pense qu'un pays comme la France est confronté au même problème et doit réfléchir sérieusement pour savoir si elle va suivre aveuglément une idéologie qui va l'entraîner sur une voie autodestructrice.
Voilà, ça, Gilles Balbastre, c'est la fin de votre film, ce film que vous consacrez à l'EDF. Le sous-titre, c'est Les Apprentis Sorciers, un film qu'on pourra voir sur France 5 le 30 mars à 15h45. Il faut pas louper ça, parce que c'est 15h45 sur la 5 et c'est une diffusion. Mais on commence par la fin du film. On a voulu commencer par la fin du film avec cette voix. C'est un Américain, c'est bel et bien un Américain. C'est pas ces Américains que rencontre notre ami BHL dans ses voyages. C'est un autre Américain qui nous met en garde contre la destruction des services publics en France et qui nous rappelle que aux États-Unis aussi, on a lutté pour les services publics et comment les services publics aux États-Unis ont été détruits peu à peu. C'est une idée qui parcourt tout votre film, ce film que vous consacrez à la fin de l'EDF, enfin à la fin de l'EDF tel qu'on l'a connu. Alors, on va parler de ce film, c'est le film que vous avez réalisé, mais il y a deux autres films, un autre sur la SNCF, une erreur d'aiguillage, et un autre film sur la Poste, un drôle de pli, réalisé par d'autres réalisateurs, vous nous en parlerez. Donc les trois films, l'idée c'était de raconter la destruction des services publics.
La dérégulation des services publics dans un premier temps et la privatisation de ces services publics dans un deuxième temps, effectivement. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est en deux temps ce mécanisme et cette histoire. Il y a d'abord eu la dérégulation des marchés. Ça veut dire que on a atteint, mis à mal, détruit le monopole de services publics pour effectivement le remplacer par un libre marché, un marché concurrentiel. Et effectivement, dans un deuxième temps, il ne reste plus qu'à privatiser en partie ou totalement ou partiellement ces services publics. Ça s'est mis en place à la fin des années 80, la dérégulation et les privatisations peu à peu arrivent maintenant. On l'a vu avec la privatisation partielle d'EDF, avec la privatisation qui se dessine de Gaz de France et avec des secteurs de la Poste qui sont en partie privatisés ou filialisés comme la SNCF et certainement plus tard dans les prochaines années, cette privatisation effective ou totale.
Les premiers projets de directive de libéralisation du secteur électrique traitaient ce secteur à peu près comme on aurait traité, le marché de la chaussure.
Ah, il est clair certain qu'ils ne connaissaient probablement pas grand-chose que ce secteur d'un électron.
je vous avouerai que moi qui suis été rapporteur aussi, je veux dire, mais bon, je me suis informé, j'ai évidemment rencontré beaucoup de personnes qui m'ont un peu expliqué tout cela, mais c'est vrai, il y avait une méconnaissance du produit d'électricité.
Et pourtant, ce sont bien les libéraux de la Commission et leur idée saugrenue du produit comme un autre qui l'emportent. Une directive européenne en 1996, puis une loi française en 2000, scellent alors leur victoire. L'attitude des gouvernements français de l'époque est en grande partie responsable de cette défaite idéologique. À droite, mais surtout à gauche, on baisse les bras face à cette attaque du service public et on ouvre en grand les portes de la dérégulation du secteur.
Alors c'est l'histoire de cette dérégulation que vous racontez dans ce film. Vous remontez un peu dans le temps et surtout concernant EDF, on va plutôt se focaliser sur EDF. On a en ligne Philippe Mühlstein qui est un cadre de la SNCF qui participe au conseil scientifique d'Attac et qui lui nous parlera plutôt de la SNCF où on assiste à des phénomènes proches, mais pas tout à fait les mêmes. Philippe Mühlstein, est-ce que vous nous entendez?
Je vous entends très bien.
Bon, très bien. Donc vous intervenez quand vous voulez.
Bien entendu.
Au cours de cet entretien avec Gilles Balbastre. Donc, Gilles, la première chose que vous dites, c'est que l'électricité, c'est pas un produit comme un autre, c'est pas une marchandise comme une autre.
Ce qui est intéressant avec...
C'est pas vous qui le dites, c'est ceux que vous rencontrez.
Si vous voulez, quand on a fait ce projet de trois documentaires sur la dérégulation de trois services publics, la SNCF, la Poste et EDF, puisque c'était moi qui dirigeais la collection, j'avais à choisir un des trois, à réaliser un des trois documentaires, les deux autres étaient réalisés par deux autres réalisateurs. Je pouvais choisir la Poste, je pouvais choisir la SNCF ou EDF. Alors, ayant eu un père cheminot, j'étais presque tenté de faire la SNCF. Ayant écrit un article il y a quelques années sur la dérégulation à la Poste, j'étais tenté de faire la Poste. Et en fait, la EDF, j'avoue que j'étais pas forcément tenté, parce que moi, à l'origine, par exemple, mon militantisme s'est fait dans la fin des années 70 avec la lutte antinucléaire, vous voyez. Donc, effectivement, oui. EDF, c'était un secteur que je connaissais pas du tout. Et justement, je me suis attelé à ce secteur et j'ai peu à peu appris à connaître ce secteur qui est un secteur passionnant, et notamment à EDF où il y a eu un recrutement de salariés de haut niveau pendant les années 50-60, et effectivement c'était un secteur intéressant. Et c'est un secteur intéressant après plutôt mon côté, parce que je suis pas un ingénieur ou un scientifique, mais c'est plutôt le côté politique moi qui m'intéresse aussi, c'était que ce secteur, si les libéraux, les ultra-libéraux, la Commission européenne, entre autres, arrivaient à le déréguler, ils avaient gagné une bataille idéologique. Parce que s'il y avait bien un secteur, un des secteurs en tout cas, avec certainement la SNCF, mais sur un autre plan, s'il y avait bien un secteur qu'on peut pas déréguler, ou que l'histoire politique et économique a amené au monopole intégré, avec tout ce que ça induit en termes de sécurité, de sûreté d'approvisionnement, de prix bas en France, c'est bien le secteur de l'électricité. C'est-à-dire la logique de créer un monopole intégré, parce que, au fond, si vous désintégrez ce secteur-là, vous arrivez certainement à des aberrations qui a eu lieu dans le monde, là, notamment en Californie en 2001, là où on a été, des blackouts qu'on a vu là en New York en 2003, en Italie en 2003, ou en Suède, au Danemark en 2003.
Or, des blackouts, on n'en a pas connu en France.
Depuis 78, oui.
Depuis 78, pas de blackout en France.
Blackout, ça veut dire, ça veut dire noir complet.
Ça veut dire noir complet, et c'est pas une petite panne de courant. Il y a des conséquences très graves.
Économiques, sociales, etc.
Dans la séquence que vous consacrez à la Californie, vous êtes allé là-bas, on va en parler, parce que c'est quand même une partie très éclairante de votre film. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de blackout depuis 78 en France? Parce que EDF, c'est une seule et même entreprise, et que on l'a dit, l'électricité, c'est pas une marchandise comme une autre, parce que l'électricité, ça ne se stocke pas.
Voilà. Alors ça, c'est le principe fondamental, c'est que l'électricité, ça ne se stocke pas. Ça veut dire qu'à tout moment, vous devez avoir un équilibre parfait entre la production et la distribution. Il faut exactement qu'il y ait le même nombre de kilowattheures consommés et produits. Et ça détermine d'une façon importante la particularité de ce marché. Parce que imaginez, vous êtes dans un marché privatisé, et si vous n'avez pas cet équilibre permanent, le risque c'est le blackout, c'est-à-dire c'est le fait qu'il n'y ait plus du tout d'électricité. Et c'est quelque chose, ça aussi, le deuxième point important, c'est que l'énergie est vitale. On s'en rend pas compte, mais on peut se priver certainement de téléphoner, on peut se priver d'aller en voiture quelque part, mais de se priver d'allumer son chauffage quand il fait froid, sa lumière quand il fait noir. C'est un bien qu'il est tellement évident qu'on n'arrive même plus à le connaître. Et donc, imaginez, c'est ce qui s'est passé en Californie, une entreprise privée qui possède, à un moment donné, par exemple, il y a un pic de consommation parce qu'il fait froid. Donc, il y a besoin que des centrales de production vont produire plus. Il faut aller chercher ces centrales de production pour qu'elles fonctionnent. Imaginez celui qui a le kilowattheure qui va sauver le réseau, qui va empêcher que le réseau s'effondre. Mmh. Eh ben, il peut le vendre comme il veut. Il peut le vendre le prix qu'il veut. Et ça, cette manipulation potentielle a été un sport national en Californie entre les années 96, 98 et 2000. Et ça, c'est fondamental. L'électricité ne stocke pas, il faut un équilibre permanent et ça détermine effectivement le monopole intégré. Et on va le comprendre rapidement.
Le prix de l'électricité, quand on n'est plus capable de produire, il est infini. Puisque si je ne fournis pas le mégawattheure qui va empêcher au réseau de s'effondrer, si je ne le fournis pas, qu'est-ce qui se passe? Le réseau s'effondre. Combien ça coûte que la Californie soit plongée dans le noir pendant 24 heures? Eh bien, ce que ça coûte, on peut le calculer, c'est des milliards de dollars. Donc le producteur qui a les 10 ou 100 mégawattheures qui vont permettre au réseau de tenir, il a un pouvoir économique absolu.
Alors, il y a ce basculement à la fin des années 90. Vous dites bien un basculement idéologique, où l'un de vos intervenants, l'une des personnes qui intervient dans votre film, parle bien d'un basculement idéologique. Il y a deux mots qui interviennent. Hein. Il y a le mot « moderniser », hein, et puis il y a le mot « monopole ». Le monopole, c'est mal.
Service public, surtout.
Mais service public, monopole, c'est mal. Ça veut dire que c'est granitique, c'est archaïque, c'est une grosse bestiole qui bouge plus. Et puis, ce qui est bien, c'est la concurrence, c'est la modernisation. On va moderniser et on va imposer la concurrence parce que la concurrence, c'est bon pour le client, hein, parce que les gens les fournisseurs se disputent et bien sûr c'est pour le bénéfice du client. C'est ça.
Le libre choix.
C'est le libre choix. C'est comme ça que ce basculement idéologique s'opère, oui, vis-à-vis du consommateur et vis-à-vis de l'usager. C'est-à-dire que l'usager devient un client. Oui. Philippe Mühlstein, oui.
Oui, je souhaiterais juste un tout petit peu élargir la problématique. Ce qu'a dit Gilles Balbastre est parfaitement exact. L'électricité n'est pas une marchandise comme les autres, et il explique bien pourquoi dans son film, hein, par le fait qu'on ne peut pas la stocker et qu'il faut à tout instant réaliser l'équation production égale consommation. Mais je dirais de manière plus large que les services ne sont pas des marchandises comme les autres. Et qu'il s'agisse du service de la poste, qu'il s'agisse du service de transport, on peut le dire également. Alors c'est vrai que l'électricité c'est beaucoup plus important. Il n'est pas question d'avoir froid ou de rester dans le noir. Mais n'oublions pas également que si vous n'avez pas la possibilité une société organisée comme la nôtre, d'expédier du courrier et d'en recevoir, ne serait-ce que le courrier administratif, hein, celui qui va vous permettre de bénéficier, par exemple, des services de remboursement de médicaments, de la sécurité sociale, ou de toucher une pension de retraite ou d'invalidité, là aussi, vous êtes dans d'extrêmes difficultés pouvant déboucher sur l'exclusion. On le voit bien avec la difficulté qu'éprouvent les sans-logis de ne pas avoir d'adresse. Bon, en ce qui concerne les transports, il est vrai qu'aujourd'hui, entre 75 et 80% des Français ont une automobile, mais il en reste 20 à 25% qui n'ont pas d'automobile, donc qui sont dépendants des services publics de transport. Donc, pour cela, et 20% ce n'est pas négligeable, il est très important que le service ne soit pas une marchandise comme les autres, qu'il soit disponible, même s'il ne présente pas de rentabilité au sens marchand, mais parce que c'est, en tant que citoyen, un service auquel on a droit.
L'électricité n'étant rien différente des autres produits dans ce monde. Je pense que certains individus croient que les consommateurs sont du bétail, qui a besoin de bergers, et que ce sont eux les bons bergers. En fait, il n'y a pas de contrôle sur le prix du blé aux États-Unis. Et donc, en tant que consommateur de blé, j'ai le droit d'acheter du pain, je peux acheter des croissants, je peux acheter de la bière avec du blé dedans. De nombreux choix s'offrent à moi pour ma consommation de blé. Et je n'ai pas besoin, quand je rentre dans mon supermarché, qu'un bon berger vienne m'aider.
Les politiciens et les entreprises énergétiques diront que les consommateurs veulent avoir le choix en ce qui concerne l'électricité. On ne veut pas avoir le choix. On veut de la fiabilité. On ne veut pas avoir le choix. On veut un prix raisonnable et constant. On ne veut pas avoir le choix. On veut la sécurité. C'est ça, l'électricité. On peut avoir le choix lorsqu'on sort pour dîner. Pas lorsqu'on actionne l'interrupteur.
Alors, l'offensive, le basculement idéologique va venir de la Grande-Bretagne, à l'époque Thatcher, et il y aura l'argument européen. On va trouver l'argument européen qui, on va avoir les militants de l'Europe qui vont, c'est Léon Brittain, hein, qu'on voit dans le film. Non,
c'est le commissaire à la concurrence, Léon Brittain, dans les années 90, qui va lancer, le grand vent de dérégulation dans le secteur énergétique, mais ailleurs aussi.
Et qui va dire, on ne peut pas construire l'Europe avec les monopoles dans chaque pays, en tous les cas, avec le monopole français.
On peut pas construire le marché européen, surtout, parce que ce qui l'intéressait, lui, c'était le marché européen. Je suis pas persuadé qu'il soit passionné par l'Europe à d'autres titres.
Et l'argument permanent, c'est de dire, le client est roi. Le client va pouvoir choisir. Le client fait ce qu'il veut. Il y a une espèce de liberté. Là, le mot libéralisme prend tout son sens. C'est-à-dire que chacun fait comme il l'entend, comme il veut, selon ses aspirations, ses goûts, son choix.
Effectivement. Alors, ce qui se passe aussi dans Léon Brittain, c'était commissaire européen à la concurrence des années 90, ancien ministre de Thatcher, pro-libéral, ultra-libéral. Et effectivement, il s'attaque, alors, sur le marché de l'énergie, s'attaque au monopole des services publics, et notamment, il y a un monopole qu'il faut abattre en priorité, c'est EDF, parce que EDF est le symbole du monopole des services publics qui marche bien en Europe. Grosso modo, les Français n'ont pas à se plaindre de l'électricité qui arrive chez eux et n'ont pas à se plaindre du prix de l'électricité. Après que certains Français se plaignent de la manière dont est fabriquée l'électricité, c'est-à-dire par exemple avec les moyens nucléaires, je dirais que c'est une autre histoire importante qu'on va pas trouver dans mon film parce que je pense que on peut pas. C'est deux histoires différentes. Le nucléaire rajoute à mon avis une couche au niveau danger. On aura l'occasion d'en parler. Et donc il lance la bataille contre les monopoles de services publics d'électricité et notamment EDF. Alors que l'électricité fonctionne plutôt bien, sous monopole de services publics fonctionne plutôt bien en Europe, à part la Grande-Bretagne, mais en Grande-Bretagne les services publics, et ça c'est une autre émission historiquement, un certain nombre de problèmes, et ils vont trouver ce prétexte pour dire il faut casser ces monopoles, il faut créer du marché, il faut que les citoyens aient la liberté de choix. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là, il s'est dit dans le film, ils n'y connaissent rien. Au niveau des électrons, ils considèrent le marché de l'électricité comme le marché de la chaussure. Alors que, encore une fois, c'est un marché spécifique puisque l'électricité se ne stocke pas. Mais ils en ont rien à faire. Il faut gagner la bataille idéologique.
En France, ça se fait sous la gauche, ça.
Alors non, au début, ça se fait au départ, 90-91, le ministre qui est le ministre de l'Industrie à l'époque, c'est Dominique Strauss-Kahn. Et Dominique Strauss-Kahn va assez bien collaborer dans ce sens-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Dominique Strauss-Kahn a refusé de me rencontrer. C'est un des rares politique a refusé de me rencontrer parce qu'il avait un emploi du temps très très chargé à cause du congrès du PS. Effectivement, Dominique Strauss-Kahn n'avait peut-être pas envie, à quelques mois des présidentielles, de se faire rappeler qu'il avait été pour la privatisation, en tout cas une partie de la privatisation d'EDF, et qu'il a œuvré à cette dérégulation. Alors, en fait, celui qui va conclure cette dérégulation, paradoxalement, c'est un ministre de l'industrie de droite qui s'appelle Franck Borotra, qui lui est plutôt, je dirais, à la limite, moins libéral que Strauss-Kahn. C'est un keynésien, je veux dire. C'est la bande un peu à Seguin. Et lui, il est pour le contrôle de l'État quand même. Mais c'est lui quand même, mine de rien, qui va signer la directive en juin 96, qui va au fond ouvrir le marché de l'électricité. Alors que en 90-91, ça paraissait aberrant. Tous les professionnels, tous les gens sensés de ce milieu-là disaient mais c'est aberrant ouvrir le marché de l'électricité. Encore une fois, par rapport à ces particularités. Et il y a une autre particularité dont on n'a pas parlé, c'est que l'électricité en plus circule mal. circule mal, c'est-à-dire qu'il y a une énorme déperdition entre le lieu de production et le lieu de consommation, si ce lieu de consommation est lointain. C'est pour ça qu'il n'y a pas de marché d'électricité. Si vous voulez, penser qu'on peut vendre un électron qui est fabriqué en Suède et le vendre à Barcelone, c'est une aberration. L'électricité, il y a une déperdition énorme. En plus, il y a de plus en plus de résistance face aux énormes transporteurs, hein, les grandes lignes de haute tension. Donc, il y a des logiques, encore une fois, économiques historiques pour que l'électricité, le marché c'est fabriqué à l'intérieur des frontières. Voilà, parce que ça fonctionne mal. Encore, on peut à la limite distribuer l'électricité sur les pays limitrophes, mais alors créer un vaste marché européen, c'était une aberration. Mais ils en avaient que faire de ça. Léon Britann et les ultralibéraux en avaient que faire. Et les autres en face, plutôt que de résister, plutôt que même de pas de résister, de dire on va plutôt faire autre chose, on va moderniser les services publics. Non pas que les services publics étaient parfaits. EDF était un monopole dans l'État. EDF prenait des décisions sans parfois en référer à la nation. Qui a besoin de plus de transparence démocratique, de contrôle démocratique d'EDF?
Ça, c'est évident.
Ça, c'est évident. C'est évident. Mais ça ne veut pas dire qu'il fallait aller dans la privatisation. Et je peux vous dire que le contrôle démocratique d'EDF, Léon Britann, il n'en avait que cure. Il n'en avait que cure. Et les ultralibéraux n'en avaient que cure. Et je veux dire, en tout cas, par exemple, ce ne sont pas des antinucléaires primaires. Mestralé de Suez, il est pour le nucléaire. Ils sont tous pour le nucléaire. Croire, par exemple, que c'est parce qu'on va abattre EDF qu'on va réussir à passer à une autre forme de production d'électricité, alors ça, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Et donc, eux, ils attaquent. Et en face, personne ne résiste. Personne ne résiste. Et dedans, il y a l'interview, dans mon film, il y a l'interview d'un député socialiste belge. Alors, le problème, c'est qu'il m'a pas dit ça vraiment à l'antenne, mais ça résume, au fond, cette pensée socialiste, je dirais. Et le gars, il a été président de la commission de l'énergie au Parlement européen. Donc, c'est quelqu'un dans les années 90 qui a été une courroie importante de cette dérégulation. Mmh. Et il me dit, Léon Britann attaque très fort, et nous, on mesure. On fait attention, pas si vite. J'ai dit, mais pas si vite, mais on y va quand même. Oui, oui, on y va, mais faut y aller parce que ça marche pas bien. Si, si, ça marche bien. Et si on y va, c'est dangereux. Ah oui, oui, c'est très dangereux. Mais pourquoi y aller? Eh bien, parce que ils y vont, les autres. Mais il n'y a pas une autre façon de résister? Eh bien, non. Mais non, parce que c'est l'Europe. Et ça, c'est extraordinaire, c'est un résumé socialiste. C'est que on sait que c'est pas terrible, mais on y va parce qu'il faut y aller, et parce que surtout on est prisonnier de ce carcan européen. À partir du moment où il y a une directive qui va être décidée en 96, il faut transcrire cette directive en une loi. Et ça, effectivement, c'est les socialistes qui vont le faire, alliés aux communistes, et c'est notamment Lionel Jospin. La directive de 1996 va être transposée, pardon, en une loi en 2000, en février 2000, et cette loi ouvre vraiment la dérégulation du marché de l'électricité.
La liberté de choix du consommateur, ou autrement dit, le client roi, voilà l'étendard de l'idéologie libérale. L'Angleterre est bien sûr le pays où cette maxime va s'appliquer au secteur électrique dès les années 90.
La Grande-Bretagne est devenue en quelque sorte une sorte de laboratoire de la libéralisation, hein, qui est devenue une sorte de modèle aux yeux d'un certain nombre de hauts fonctionnaires européens ou de représentants des grandes entreprises européennes. Et donc, on a vu le courant consumériste en quelque sorte se développer.
Acheter son courant électrique en faisant ses courses au supermarché, depuis 6 mois en Angleterre, c'est possible. Margaret Thatcher en rêvait, le gouvernement travailliste l'a fait.
Philippe Milstein, est-ce qu'on observe des processus comparables dans d'autres domaines comme la Poste ou la SNCF, qui sont, je le rappelle, les sujets des deux autres films qui sont présentés sur France 5?
Alors, j'ai le sentiment qu'on observe des processus tout à fait calqués les uns sur les autres dans les différents grands services publics. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est il faut déréguler, il faut ouvrir à la concurrence parce que ça marchera mieux. On veut pas savoir si ça marche déjà bien ou pas bien. La dérégulation, l'ouverture à la mise en concurrence des opérateurs publics de services sera bénéfique. C'est un postulat de départ qui n'est pas discutable.
C'est complètement idéologique.
Il est idéologique d'un certain côté, mais on aurait tort de considérer que ça ne relève que d'une idéologie, que d'un dogme de type religieux. Il y a derrière des affaires d'argent. Hein. Il ne faut pas oublier que les services dans l'Union européenne, ça représente 70% du PIB. Je parle des services en général. Hein. Donc il faut bien être conscient que cette dérégulation, avec tous ses côtés dogmatiques, idéologiques, elle vise aussi à permettre au secteur privé de capter les parties rentables des grands services publics, hein, c'est-à-dire de privatiser les profits.
Alors,
je réponds plus précisément à la question. Donc oui, on a un système de dérégulation qui joue par étapes, c'est-à-dire que depuis à peu près 15 ans, on voit apparaître des vagues de directives, ce que les technocrates bruxellois appellent des paquets, hein, paquet électricité, paquet ferroviaire, paquet postal, et au fur et à mesure, on libéralise, on ouvre à la concurrence un petit peu plus. Mais ça joue comme un système de cliquets. À chaque étape, il n'est pas question de revenir en arrière, on va toujours libéraliser un peu plus. Alors ça se passe comme ça dans l'énergie, dans la poste, pour le rail, c'est tout à fait analogue.
Et avec l'accompagnement des gauches européennes, aussi bien à la poste que à la SNCF. Faut rappeler que par exemple à la poste, la dérégulation des PTT a été faite sous Paul Quilès, ministre à l'époque en 91 de Rocard. Faut pas l'oublier, et que le démantèlement de la SNCF entre Réseau Ferré Français et la SNCF a soit été fait par Alain Juppé en 1997, mais validé par la gauche quelques mois après quand ils ont repris le pouvoir, alors que ils avaient dit au Parlement lors de la discussion de la loi de dérégulation de la SNCF, ils avaient dit ce qu'une loi défait, une loi peut refaire, et ils ne l'ont pas refait.
Mais créer de nouveaux acteurs ne suffit pas. Il faut également leur donner accès au réseau. On désintègre alors EDF. La partie transport est détachée de l'opérateur historique et se retrouve autonome sous le nom de RTE, Réseau Transport Électricité.
La loi de février 2000 a, je dirais, deux enjeux fondamentaux. C'est un, le fait de dire que EDF ne va plus être la seule entreprise chargée finalement d'organiser la production d'électricité en France, et que l'ensemble des activités qui sont jusque-là organisées au sein de l'entreprise publique vont être séparées.
On est avec Gilles Balbastre pour le film qui va sortir, qu'on pourra voir sur France 5, attention, faut pas louper, hein, France 5, le 30 mars à 15h45 précise, vous pourrez voir le film de Gilles Balbastre, EDF, les apprentis sorciers, et je le rappelle, il y a deux autres films, La Poste sur la Poste, un drôle de pli, qu'on verra sur la 5 le 16 mars à 15h45, un deuxième film, SNCF, une erreur d'aiguillage, le 23 mars à 15h45, et donc EDF le 30 mars. Gilles Balbastre avec nous, et Philippe Mühlstein au téléphone, parce qu'il s'est fait une entorse au genou, ça arrive, et donc il nous fait ses commentaires par téléphone. Je voudrais qu'on vienne à la partie la plus édifiante de votre film, Gilles Balbastre, c'est ce qui se passe en Californie. Ce qui s'est passé. Et vous êtes allé en Californie, où là, il y a quand même eu une application, enfin, c'est l'état du libéralisme réellement existant, et il y a eu une magouille organisée par les entreprises énergétiques, dont Enron, qui a abouti à un blackout assez extraordinaire dans cet état de Californie, qui est l'État le plus avancé du monde, avec un PIB égal à la France, etc.
Tonight I'm declaring a state of emergency in California.
Face à cette catastrophe économique, le gouverneur démocrate de la Californie, Gray Davis, intervient en urgence. Pour pouvoir assurer et pérenniser l'approvisionnement de la Californie, il fait le choix d'acheter de l'électricité sur du long terme, au prix fort du marché.
The power to use already budgeted funds to mitigate or eliminate the disaster.
L'État de Californie a mis la main au porte-monnaie. Gray Davis a dit, nous allons payer ce qu'il faut. Et brusquement, les lumières se sont rallumées. Ces entreprises énergétiques nous ont mis un pistolet sur la tempe. C'était du chantage. Elles ont dit, nous éteignons les lumières jusqu'à ce que vous nous payiez ce que nous exigeons. C'est une déclaration de guerre économique de la part de ces entreprises.
En réalité, il y avait très peu de choix, parce que l'alternative était que l'électricité soit coupée. Non seulement l'économie de la Californie se serait effondrée, mais de nombreuses fonctions d'une société civilisée auraient disparu.
Voilà un extrait du film. On a compris que c'est Enron, qui est une entreprise d'énergie, hein, qui distribue l'énergie, qui a manipulé le marché en créant un embouteillage imaginaire et de façon tout à fait criminelle, tout à fait préméditée, c'est ça?
Alors, d'abord, il n'y a pas que Enron. Hein. Ils ont tous magouillé, ils ont tous profité de cette particularité, enfin, toutes les entreprises énergétiques, ou la majorité, ont profité de cette particularité qui est effectivement l'électricité ne se stocke pas, il faut toujours qu'il y ait l'équilibre entre l'offre et la demande, hein, un équilibre parfait entre la distribution et la production. Ils ont profité de cette particularité pour créer des pénuries. Parce que vous imaginez bien qu'effectivement, le fait qu'il y ait de la réserve fait que il y a plus de production potentiellement parlant hein, que de la consommation. Donc, ils ont créé au départ, quand il y a eu la dérégulation qui s'est mise en place dans les années 96, ils ont commencé à rogner sur les réserves pour que les prix augmentent. Puisqu'il y avait moins de réserves, effectivement, on était plus sur une crête tangente. Mmh. Et c'est ça l'intérêt du marché, c'est de créer une raréfaction pour pouvoir faire monter les prix. Parce que le but, c'est de faire monter les prix quand même. C'est pas de faire baisser les prix comme ils disent. Hein. Et après, ils se sont amusés aussi à créer d'autres manipulations. Et Enron, à ce niveau-là, était assez fort. Parce que je vous ai dit, si par exemple, il y a trop de consommation et pas assez de production, blackout, pénurie. Mais il y a un autre phénomène, s'il y a trop de production et pas assez de consommation, blackout aussi. Il y a un engorgement. Et l'engorgement crée un blackout. Dans les deux sens, il y a un blackout. Donc, ils se sont amusés à faire un engorgement artificiel sur le papier, à faire croire qu'il y avait trop d'électricité sur le réseau et qu'il allait donc avoir un blackout. Et donc, le gestionnaire de réseau paye très cher. Ils ont payé 10 millions de dollars à Enron sur une manip.
Qui a payé les 10 millions de dollars?
Mais c'est le gestionnaire de réseau, le seul qui reste, si vous voulez, au niveau du service public.
C'est ça. C'est donc le public qui a payé.
Donc, soit vous les arrêtez par l'intermédiaire des tribunaux, vous réquisitionnez leur centrale, ou vous déclarez l'état d'urgence, soit vous payez les pots cassés. Et en définitive, comme rien n'a été fait pour arrêter les criminels, c'est à nous de payer pour leurs crimes. Et la Californie va encore payer pendant 20 ans.
Et ça, on peut l'aborder sur d'autres secteurs, et surtout, il faut insister, parce qu'on a parlé, effectivement, il faut déréguler, ça va être mieux, etc. On pourrait se dire, mais pourquoi pas? Au fond, pourquoi pas? Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la dérégulation, et même en France actuellement, par exemple, on paie beaucoup plus cher maintenant le service postal qu'avant. On paie même plus cher le téléphone. On a toujours l'impression que ça diminue le téléphone. Mais rappelez-vous, il y a une quinzaine d'années, la majorité des gens en France sont des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent. Faut quand même se rappeler, la France n'est pas peuplée de bobos qui lisent Libération ou Charlie Hebdo. Il y a d'autres gens en France, vous voyez. Et il y a des gens qui sont précaires, au RMI, qui travaillent dans des boulots durs, qui vont avoir des CNE, voire des CPE bientôt, etc. Quoique ça, peut-être on arrivera à le faire tomber. Mais c'est la réalité. Rappelez-vous, l'unité à l'intérieur d'une zone urbaine était illimitée. Et la plupart des gens, ils avaient leurs voisins, leurs amis, leur famille autour de chez eux. Ils téléphonaient pas à l'international, à leurs copains cadres dirigeants à Londres, à leurs amis journalistes à New York ou à Munich, à leurs amis publicistes à Madrid. Non, non, non. Ils téléphonaient à leur père qui était ouvrier juste à côté. Et ça, c'était illimité. Et les factures d'électricité, de téléphone à l'époque, moi, mon père qui était ouvrier à SNCF, il payait 200 balles par mois. Et ça, maintenant, boum, ça taxe. Donc, faut pas croire que la dérégulation des services publics, pareil pour le courrier, etc., la gestion, par exemple, des comptes bancaires à la poste, des comptes postaux, était gratuite avant. Vous aviez une carte de distribution gratuite. L'arrêt à la manière de la dérégulation, c'est d'avoir entouré de grisailles tout ce qui était les bases du service public.
Tout lié les services était gratuit. Que ce soit là, je veux dire, quand on mettait en service un client, tout ça, bon, ce soir c'est fini. Une mise en service d'un client, maintenant c'est 11 euros, ça va passer à 38 euros. Une modification de contrat, c'était gratuit, maintenant ça va coûter 21 euros, hors taxe. Ne serait-ce que changer les heures creuses, donc on va chez le client, on tourne un petit bouton, hein, on fait ça. Le client, ça lui coûte 21 euros, hors taxe. On va chercher une facture impayée, ça coûte 38 euros, au client, hors taxe. Pour un professionnel, 75 euros. Donc on est vraiment maintenant dans une logique de faire du pognon, voilà. À chaque fois, je fais une tournée d'impayés un matin, je vois 12 clients, ça fait 12 fois 38 euros hors taxe rentrée pour la boîte. Et si je fais des réglages disjoncteurs l'après-midi, on continue, parce que maintenant c'est payé en 21 euros. Mmh. Donc en une journée, maintenant un agent, il est rentable, quoi. Et cette notion de rentabilité, on l'avait pas avant.
Philippe Ullstein, Gilles Balbaz, dépêchons-nous de avant que pendant que nous sommes encore un service public de la radio. on va hélas conclure avec le la dernière partie du film de Gilles Balbaz sur sur l'EDF, c'est la question des investissements. Parce que c'est quand même ça, c'est le plus tous vos intervenants reconnaissent que là il y a un vrai problème. Il va falloir renouveler le parc des centrales nucléaires, revoilà le nucléaire, et ça c'est des investissements extrêmement lourds, c'est des investissements à long terme, et ça l'actionnaire ne veut pas, parce que derrière ce que vous dites tous les deux, derrière la Poste, derrière la SNCF, derrière EDF, Gaz de France, il y a l'actionnaire, il y a cette dictature de l'actionnaire qui ne correspond pas du tout avec ces investissements nécessaires à long terme et lourds.
Mais parce que qui va aller investir dans un marché qui se situe sur plusieurs décennies, sur 30, 40, 50 ans, 60 ans? Qui va décider effectivement une politique d'approvisionnement digne de ce nom d'un pays comme la France? Le privé, qui va par exemple faire des moyens de production de réserve au cas où il y ait des pics de production importantes, donc des moyens de réserve dormants qui ne sont pas rentables par essence ou pas immédiatement. Donc effectivement, toutes ces questions-là, le marché n'y répond pas. Et il faut, pour le privé, que l'électricité soit suffisamment chère pour que ça rapporte suffisamment, d'une part, pour les actionnaires, et d'autre part, pour accumuler suffisamment de fonds pour pouvoir investir sur de nombreuses décennies. Et ça, avant, c'était une politique, je dirais, d'EDF, adossée à l'État, qui pouvait, effectivement, penser une politique énergétique d'un pays. Juste pour terminer, l'Angleterre, qui, elle, est libéralisée, l'électricité a excessivement augmenté ces dernières années. Ce qui pose un problème pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et il y en a pas mal en Angleterre, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Hein. Ils ont fait un système qui est génial, et notamment EDF, qui est allé acheter London Electricité en Angleterre. Ils font ce qu'on appelle Power Key. C'est-à-dire que vous allez dans un endroit, vous chargez une clé, vous avez 10 livres, vous achetez pour 10 électricité, vous arrivez à votre compteur, vous mettez vos 10 livres, et ben quand il n'y en a plus, il s'arrête tout seul votre compteur, il vient même plus vous le fermer. Et donc ça veut dire que pendant les 10 derniers jours du mois, vous avez plus d'électricité. Effectivement, l'électricité devient de plus en plus un produit aussi de luxe,
c'est ça.
Qui va coûter de plus en plus cher.
Et qui nous transforme aussi en client qui doit passer sa vie à choisir, qui doit se demander, je prends ce tarif-là, non, alors là, oula, on n'a pas tant de temps que ça à consacrer à ça, mais si, il va falloir, il faut de plus en plus que nous consacrions. Il y a un de vos intervenants qui dit, avoir le choix, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est la sécurité.
C'est un intervenant californien qui voilà, dit que, en matière d'électricité, on n'a pas besoin de choix. On a besoin de sécurité, on a besoin de bas prix, on n'a pas besoin de choix. On a besoin de choix quand on va resto, on n'a pas besoin de choix au niveau électricité, et on n'aurait pas besoin de choix sur les services postaux et ferroviaires. Et effectivement, on va avoir un citoyen merveilleux. Il va passer son temps à comparer son assurance, sa mutuelle, son école privée, son hôpital privé, son électricité, sa poste, son ferroviaire, au lieu de s'amuser, lire, aller au cinéma, baiser, se promener, enfin faire des choses pas marchandes, vous voyez ? Des choses de la vie ailleurs.
Philippe Mühlstein, même conclusion ?
Un petit chiffre rapidement, depuis 2002, la SNCF a vu sa note d'électricité augmenter de près de 50%. Et ça se répercute dans le prix des billets que les voyageurs payent. Quelque part, moi ce serait ma conclusion, que ce soit dans la poste, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans le transport ferroviaire, le mouvement général de libéralisation, des régulations mises en concurrence, malgré tous les propos, toute la rhétorique qui peut être sorti au kilomètre par la commission de Bruxelles ou d'autres en disant ça va être mieux pour les consommateurs, etc. Tout montre, quand on regarde les faits, qu'en réalité, le consommateur paye beaucoup plus. Et la véritable et seule philosophie qui préside à tout cela, elle est très simple. C'est privatisation des profits, socialisation des pertes. C'est-à-dire la base même du système capitaliste.
Merci Philippe Mühlstein, merci Gilles Balbastre. À bientôt.